Votre rendez-vous avec l'actualité, le journal de la rédaction et Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Israël est prêt à combattre seul.
Réponse hier soir de Benjamin Netanyahou après la menace américaine de suspendre les livraisons d'armes à l'État hébreu. Le Premier ministre israélien se dit déterminé à mener une offensive terrestre d'ampleur à Rafah. Le gouvernement des Maldives renvoie les militaires indiens présents dans le pays depuis des années. C'est l'aboutissement d'une politique agressive du nouveau président envers son voisin indien et d'un rapprochement avec la Chine. Dans l'actualité française, plus que 4 semaines avant les européennes, avantage très net à la liste du RN menée par Jordan Bardella. Elle dépasse les 30% dans les intentions de vote. Le numéro 3 de la liste RN, Fabrice Leggeri, est l'invité de ce journal. Et puis à Mayotte, touchée par le choléra, la réponse du gouvernement n'est pas adéquate selon le médecin du Monde. Hier, lors de son déplacement sur l'île, le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, a annoncé la mobilisation de 86 réservistes et l'ouverture de 20 lits dans le seul hôpital de l'archipel. Benjamin Netanyahou, de plus en plus isolé sur la scène internationale depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, le Premier ministre israélien mène une guerre aux conséquences humanitaires désastreuses dans la bande de Gaza. Il se dit déterminé à livrer une offensive terrestre d'ampleur à Rafah, dans le sud. Selon lui, les derniers bataillons du Hamas se cachent dans cette ville. Mais selon l'ONU, 1 400 000 Palestiniens, en grande majorité déplacés, s'y sont réfugiés. Des civils qui pourraient se retrouver piégés au milieu des combats. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont menacé de suspendre des livraisons d'armes à Israël. Benjamin Netanyahou prend acte de l'avertissement américain et affirme que Israël est prête à combattre seul. À Jérusalem, les précisions de Michel Paul de RFI pour France Culture.
Dans une série d'interviews en anglais, Benjamin Netanyahou tente de calmer le jeu. « Je connais Joe Biden depuis plus de 40 ans », affirme-t-il. « Nous avons eu des désaccords que nous avons réussi à surmonter. » Mais quand le Premier ministre israélien s'adresse à ses concitoyens en hébreu, le ton est différent.
Nous sommes beaucoup plus forts. Nous sommes déterminés et unis pour vaincre nos ennemis et ceux qui veulent nous détruire. Si nous devons rester seuls, nous resterons seuls. J'ai dit que si nécessaire, nous nous battrons avec nos ongles. Mais nous avons bien plus que des ongles et avec cette même force d'esprit, avec l'aide de Dieu, ensemble nous vaincrons.
Dans l'opposition et au sein du gouvernement israélien, de nombreuses critiques s'élèvent sur la gestion de cette crise par Netanyahou, qui est tiraillé entre l'extrême droite de sa propre coalition et les familles d'otages qui exigent une trêve immédiate pour obtenir la libération de leurs proches. Et en attendant, les combats se poursuivent à Rafah, mais les responsables israéliens reconnaissent que les bataillons du Hamas ont quitté la ville avant même l'entrée de l'armée israélienne.
Comment venir en aide à la population de la bande de Gaza? En l'absence de solutions diplomatiques, la communauté internationale se contente de larguer de l'aide humanitaire. Une solution critiquée par le Hamas. 2 personnes sont mortes après un nouveau parachutage qui a provoqué l'effondrement d'un hangar. Les islamistes demandent l'arrêt de ce mode d'assistance qui a déjà provoqué la mort de 21 personnes, Étienne Monin.
Oui, et on a en tête sans doute, il y a 2 mois, les images sur les réseaux sociaux. On voyait ces parachutes noirs dans le ciel de Gaza, lancés par les Français, les Américains, les Jordaniens, qui avaient provoqué des mouvements de foule avec des bousculades sur la plage et des récupérations risquées en mer. Depuis le début, ce mode de distribution est critiqué. Les ONG considèrent que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins, une mauvaise réponse aux restrictions imposées par l'armée israélienne à l'entrée des camions. Le largage est aléatoire, il est très souvent chaotique. Il y a eu des morts par noyade dans des mouvements de foule et dans des ruptures de parachutes. Mais aujourd'hui, l'aide humanitaire est à nouveau déstabilisée. Les 2 portes du sud sont devenues inaccessibles après l'opération militaire sur Rafah. Le poste frontière israélien de Kerem Shalom est ouvert, dit l'armée israélienne, mais la sécurité n'est pas garantie à l'intérieur de la bande de Gaza. Ni les camions, ni les personnels humanitaires ne peuvent passer. L'entrée des camions se fait donc très au nord, à Erez. L'ONU a maintenant des entrepôts pour le stockage. C'est un accès assez récent qui pourrait être complété par le port flottant américain. Un premier bateau a déjà quitté Chypre, mais la météo a retardé la mise en route de ce pont maritime qui pourrait être opérationnel d'ici quelques jours. On aurait donc une inversion de la situation humanitaire avec un accès diversifié au nord et un étranglement au sud.
Merci à vous, Étienne Monin. Le gouvernement des Maldives a renvoyé aujourd'hui les militaires indiens présents dans le pays depuis des années. C'est l'aboutissement d'une politique agressive du nouveau président envers son voisin indien et d'un rapprochement avec la Chine. ce qui fait craindre à l'Inde et aux pays occidentaux de voir un nouveau pays de la région tomber sous l'emprise de Pékin. Pékin qui développe sa nouvelle route de la soie dans cette partie de l'océan Indien. Reportage de notre envoyé spécial aux Maldives, Sébastien Farcy.
Le nouveau président avait mené campagne sur cette promesse de débarrasser les Maldives des troupes indiennes. Voilà chose faite. Selon nos sources gouvernementales, les 76 militaires engagés pour la surveillance et la cartographie du pays sont partis. Ce renvoi a créé un froid avec New Delhi, surtout qu'en parallèle, les relations avec Pékin se réchauffent. Le nouveau président Mohamed Mouizou s'est rendu en Chine en janvier pour élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique et il a ensuite accueilli un navire de renseignement militaire chinois. Malais refuse toutefois de parler d'alignement avec la Chine. Ali Nasir Mohamed est ambassadeur pour les Maldives.
Ce partenariat avec la Chine est surtout économique pour renforcer la sécurité des touristes chinois et le développement des infrastructures. Les Maldives se trouvent à une position stratégique et nous recevons beaucoup de demandes d'appareillage de bateaux étrangers. En mars dernier, nous avons ainsi accueilli un navire militaire américain.
La Chine cherche à étendre son influence dans l'océan Indien et accorde aux pays de cette région des prêts généreux, mais parfois difficiles à rembourser. Et c'est ce qui pourrait arriver aux Maldives. Les emprunts chinois représentent près de 20% du PIB du pays, ce qui est une position risquée, selon le FMI.
La Chine affirme avoir suivi un bâtiment de la marine américaine et émis un avertissement à son encontre près des îles Paracel dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale. Pékin a ordonné aux forces navales et aériennes de suivre et de surveiller le navire en conformité avec les lois et réglementations et a émis un avertissement afin de lui faire quitter les lieux. C'est ce qu'indique le porte-parole de la zone de commandement sud de l'armée chinoise.
12h37 sur France Culture, la suite de votre journal Antoine Marette, plus que 4 semaines avant les élections européennes.
Et la campagne s'intensifie. Pour le moment, les sondages sont plutôt stables, avantage très net à la liste du RN menée par Jordan Bardella, loin devant, qui dépasse les 30% dans les intentions de vote. Et c'est justement le numéro 3 de cette liste que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Fabrice Leggeri.
Bonjour.
Vous faites partie des récents ralliés au RN, ancien directeur de Frontex. Et c'est à ce titre que la LDH et Utopia 56 ont porté plainte contre vous pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture. Que répondez-vous à cela ?
Écoutez, on verra devant les juridictions s'il y a lieu de répondre, mais de toute façon, tout ça est largement politique, c'est du buzz. Moi, j'ai fait 380 000 sauvetages lorsque j'étais directeur de Frontex en Méditerranée, mais vous savez qu'il y a des organisations qui ne supportent pas l'idée que l'on contrôle les frontières de l'Union européenne, et je pense que ça fait partie de ce mythe que certains, y compris relayés par la Commission européenne, essaient de faire croire à tous les Européens.
Ce qu'elle vous reproche, c'est d'avoir permis l'interception de bateaux de migrants par les gardes-côtes libyens, à la fois en faisant obstacle à l'intervention d'ONG présentes en mer, mais aussi en livrant aux gardes-côtes libyens les coordonnées GPS ou les photos aériennes de ces embarcations. Vous niez ?
Tout cela a été fait en conformité avec le droit international qui dit que lorsque des embarcations sont en détresse dans une zone de secours maritime et en l'occurrence libyenne, toute autorité ou tout bateau qui a connaissance de la présence de ces personnes en difficulté doit les transmettre au centre de coordination maritime qui est en l'occurrence à Tripoli. Tout cela a été fait en conformité avec le droit international.
Et ce, malgré le fait que les Nations Unies ont établi que ces migrants qui cherchaient à traverser la Méditerranée étaient exposés en Libye au risque de violences physiques et sexuelles, de détention arbitraire, de torture et d'esclavage ?
On peut s'étonner que personne n'attaque et en fait ne reproche, ne cherche la responsabilité des criminels. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces pauvres personnes, ces migrants, sont victimes de groupes criminels qui ont leur relais, y compris en Europe.
La LDH et Utopia 56 vous accusent également d'avoir facilité le refoulement de bateaux de migrants de la Grèce vers la Turquie en refusant de relayer leurs signaux de détresse. Et la plainte vous reproche d'avoir dissimulé ces opérations en ne les mentionnant pas dans les rapports de l'agence Frontex.
Écoutez, tout cela est absolument faux. Il y a eu de nombreuses enquêtes sur de soi-disant interceptions qui auraient été illégales en mer Égée. Je rappelle que l'agence Frontex travaille toujours sous le commandement national, en l'occurrence la Grèce. Et je rappelle aussi que le président Erdogan, en 2020, avait menacé d'utiliser les flux migratoires à des fins politiques. politique. Donc là encore, il ne faudrait pas se tromper de cible.
La Convention de Genève de 51 relative au statut des réfugiés et à leur droit d'asile stipule qu'en mer, lorsque des personnes sont en danger, le principe doit toujours être celui de l'assistance et de l'aide. Les règles de l'ONU et de l'Union européenne imposent les mêmes usages. Est-ce qu'il faut modifier ces règles?
Il ne faut pas les modifier, puisque de toute façon, l'agence Frontex, lorsque j'étais directeur de Frontex, a toujours respecté cette obligation d'assistance. Il est évident que lorsque des personnes sont en difficulté en mer, la priorité, c'est de faciliter le sauvetage. C'est ce que nous avons toujours fait.
On a bien compris que la lutte contre l'immigration est votre matrice, votre combat. Pourquoi ne pas avoir rejoint, par exemple, Reconquête, qui est, on va dire, plus en pointe sur ce sujet? Vous vouliez être sûr d'avoir un poste en juin?
Non, je crois que le Rassemblement National est le seul parti capable aujourd'hui en France de proposer une alternance aux Français, de défendre les intérêts des Français au-delà du seul thème migratoire. Il y a de nombreux thèmes dans le domaine économique. Il y a aussi les personnes qui sont en difficulté pour payer leurs factures d'électricité, qui ne comprennent plus ce que veut finalement cette écologie verte punitive. Il y a également des préoccupations par rapport à la souveraineté. Et donc le Rassemblement National est en fait celui qui propose une alternative pour une autre Europe. Donc en fait, le 9 juin, l'élection se joue sur l'Europe de Macron et de von der Leyen d'un côté, et l'Europe de nations souveraines qui coopèrent, qui est proposée par Jordan Bardella et le Rassemblement National.
Alors, sur l'immigration, puisque c'est la raison pour laquelle vous avez rejoint le Rassemblement National...
Ce n'est pas la seule. C'est également la démocratie dans l'Union européenne et la gouvernance démocratique de l'Union européenne.
Mais c'est en tant qu'ancien de Frontex que vous avez été appelé. Vous parlez de submersion migratoire, c'est un thème très fort. Vous pourriez dire également grand remplacement, remigration, ce sont des thèmes que vous pourriez utiliser aussi?
Non, ce ne sont pas les mêmes notions. Je crois que le thème de submersion migratoire indique tout simplement que nos frontières extérieures européennes sont aujourd'hui l'objet de vagues extrêmement fortes de migrants qui sont organisées par des groupes criminels, mais qui sont relayées par le discours de certaines ONG, par le discours de la Commission européenne. Et le pacte asile-migration qui a été décidé par l'Union européenne il y a deux ou trois semaines ne va pas résoudre le problème. Le problème n'est pas résolvable tant qu'on ne prend pas les demandes d'asile en dehors du continent européen. C'est ce que propose le Rassemblement National, c'est-à-dire que les personnes qui sont vraiment en besoin de protection internationale puissent faire leur demande dans un consulat de pays européen en amont, ce qui éviterait que ces personnes tombent entre les mains des criminels, ce qui éviterait que ces personnes mettent leur vie en difficulté en mer ou dans le Sahara, et ce qui éviterait, d'un point de vue de garde-frontière, de se retrouver avec des centaines de milliers de personnes qui, chaque année, arrivent sur le sol européen. Et vous voyez, par exemple, qu'en France, à peu près 80% des étrangers qui arrivent, donc illégalement, font une demande d'asile, mais reçoivent une décision négative. Et seulement 1 sur 10 parmi ces déboutés du droit d'asile ne sont effectivement reconduits dans leur pays. Donc on ne voit pas comment, par miracle, le pacte asile-migration voulu par von der Leyen et Macron vont transformer une situation qui s'est aggravée dans les dernières années.
Quel regard vous portez sur la politique de Giorgia Meloni? Elle a conquis le pouvoir en Italie sur un discours très anti-migrant, mais pour des raisons démographiques, son gouvernement a choisi d'accorder 450 000 titres de séjour à des travailleurs étrangers d'ici à l'an prochain. Giorgia Meloni n'est-elle pas confrontée à une réalité démographique?
Je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas confondre les franchissements illégaux, l'immigration illégale, c'est-à-dire c'est ça, la submersion migratoire que subit l'Europe, que subissent les Français, et d'autre part, des politiques qui peuvent être des politiques d'immigration légale. Et pour le Rassemblement National, c'est à chaque État, au sein de l'Union européenne, de décider pour lui-même s'il a besoin, oui ou non, d'une immigration légale, organisée, mais c'est un choix souverain. Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen, élue présidente de la République en 2027, proposera un référendum aux Français pour poser dans la Constitution française un certain nombre de principes, et notamment le principe de reprendre le contrôle de nos frontières, ce qui veut dire faire en sorte que l'Union européenne contrôle vraiment ses frontières extérieures, mais aussi faire en sorte que la France puisse décider librement et souverainement qui a le droit d'entrer ou non sur son territoire, c'est-à-dire une amélioration de l'espace Schengen en gardant naturellement la libre circulation pour les ressortissants de l'Union européenne. C'est un projet européen d'intérêt pour les Européens, mais qui ne doit pas être mal utilisé par les étrangers.
Merci beaucoup à vous, Fabrice Leduri.
Merci.
Et merci également à Pierre Chabert pour la préparation de cette interview. À Mayotte, la réponse du gouvernement au choléra n'est pas adéquate, selon Médecins du Monde. Hier, lors de son déplacement dans l'île, le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, s'est voulu rassurant. Il a annoncé la mobilisation de 86 réservistes et l'ouverture de 20 lits dans le seul hôpital de l'archipel. Des efforts loin d'être suffisants, selon l'ONG, pour une population sévèrement touchée par la pauvreté. 30% des habitants vivent sans accès à l'eau courante. Marion Rammstein, coordinatrice de Médecins du Monde à Mayotte, était ce matin sur France Info. Elle a alerté sur la situation aggravée dans les bidonvilles.
On a dans ces quartiers tous les ingrédients pour que la maladie puisse se propager rapidement. La promiscuité, inexistence dans certains endroits d'accès à l'eau salubre, l'éloignement, voire l'inaccessibilité des centres de soins, et puis un manque d'accès à l'information. Donc tous ces ingrédients font que la maladie peut se propager très rapidement. Oui, il y a des énormes efforts qui ont été faits par le gouvernement pour mobiliser des ressources humaines supplémentaires, pour essayer d'endiguer le plus rapidement possible la maladie, et ils sont à souligner. Malheureusement, ils ne permettent pas une réponse, selon Médecins du Monde, adéquate, puisque penser une réponse de lutte contre le choléra sans prendre en compte les conditions d'accès à l'eau, c'est peu efficace. Et surtout, il faut prendre en compte les barrières qui font que les personnes ne peuvent pas se rendre dans les centres de santé. Très rapidement, les écoles vont rouvrir à la fin des vacances scolaires et ça va être un catalyseur de la propagation de la maladie. Et pour l'instant, la situation est contrôlée et concentrée dans certains quartiers bidonvilles, mais on est très inquiet sur la propagation à plus large échelle sur l'île. Si rien n'est fait pour améliorer durablement les conditions d'accès à l'eau dans tous les quartiers qui n'ont aucun accès à l'eau, il y a des quartiers, notamment dans la Kungu, où les personnes mettent plus de 30 minutes pour accéder à une borne fontaine. Ce chiffre de 30 minutes, c'est difficile à réaliser, d'imaginer de passer autant de temps pour aller chercher de l'eau. Mmh. Et c'est un chiffre qui est important parce que il y a des standards qui sont, nous on appelle standards sphères, qui sont des normes internationales humanitaires qu'on utilise beaucoup à l'international dans les contextes de conflits, de crises, de catastrophes humanitaires. Et se dire qu'en France, à l'heure actuelle, il y a encore des endroits où l'accès à l'eau ne répond pas aux standards humanitaires minimum, c'est choquant.
Sanofi va sortir un nouveau vaccin contre le Covid-19 l'année prochaine. Le laboratoire français a annoncé ce matin un accord de licence et de commercialisation avec son homologue américain Novavax à l'origine de ce nouveau sérum. Sanofi prend 5% de participation dans Novavax pour le co-commercialiser. Une annonce qui intervient 2 ans après la sortie du premier vaccin de Sanofi contre le Covid-19. Et alors que cette semaine, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a annoncé retirer son vaccin du marché européen en raison de ventes à l'arrêt. Alors pourquoi ce choix de Sanofi, Thomas Pinaroli ?
Eh bien d'abord parce que ce vaccin est le plus récent contre le Covid. Il est donc mieux adapté aux variants actuels du virus et le laboratoire français peut espérer vendre des doses lors des différentes campagnes de rappel. Mais l'accord prévoit surtout de commercialiser un vaccin combiné contre le Covid et la grippe. C'est une première sur le marché. Nathalie Coutinet est économiste de la santé au CNRS.
C'est intéressant pour Sanofi parce que ça va sans doute doper un peu les ventes de son vaccin et que les populations les plus fragiles sur le Covid, ce sont aussi les populations qui sont les plus fragiles sur la grippe. Donc finalement, comme on a un Covid maintenant qui est endémique, il y a tout le temps un peu de Covid, c'est un peu comme la grippe, ben finalement il y a un intérêt à vacciner les populations contre les deux virus en même temps.
L'enjeu est particulièrement important pour Sanofi, leader de la vaccination contre la grippe avec un tiers des doses vendues dans le monde. Ça représente 10% de son chiffre d'affaires et d'après les projections du laboratoire, le marché devrait passer de 6 à 15 milliards d'euros d'ici 2030. Mais il reste un doute sur ce vaccin combiné, c'est la technologie choisie par Sanofi et Novavax, un sérum à protéines, le modèle classique des vaccins et non à ARN messager que Sanofi n'a encore jamais utilisé.
Je pense qu'ils n'ont pas complètement lâché. Ça serait d'ailleurs, à mon sens, une erreur majeure de lâcher, mais ils ne sont pas prêts. Ce qui est inquiétant dans la mesure où le futur du vaccin est vraisemblablement l'ARN messager.
Et pendant ce temps, le laboratoire américain Moderna prépare un vaccin à ARN messager contre la grippe, le Covid et la bronchiolite. Sanofi veut donc aller vite pour ne pas revivre l'épisode du Covid. Le Français avait sorti son premier vaccin avec 2 ans de retard sur ses principaux concurrents.
Merci à vous Thomas Pinaroli. Le printemps arrive en France. Cet après-midi, beau temps presque partout et températures en hausse. À noter tout de même quelques précipitations sur les reliefs alpins. Il fera 20 degrés à Cherbourg, 23 à Paris et même 28 à Tarbes. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet. Prochain journal à 18h avec Nicolas Ballu.